Le pourquoi de la douleur?
Mon ami, dit Jésus, écoute-moi et donne ton attention à tout ce que je te dirai. Je te parlerai de la nécessité de la souffrance. Pourquoi souffrir? Se demande le monde entier qui met toute son attention et tous ses soins à éviter la souffrance. Or, je te demande, est-il nécessaire de souffrir? Et je te réponds moi-même. La souffrance est entrée dans le monde avec le péché. Et tant qu'il dure, l'expiation est nécessaire. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Tout crime suppose une victime qui paie. Moi, je l'étais la première victime, dit Jésus, et j'ai payé pour tout le monde. Mais mon sacrifice ne s'applique aux âmes que si elles y adhèrent par leur propre impôt de sang. Pourquoi personne ne peut être exempté de la souffrance? De la naissance à la mort, les premières larmes que verse l'enfant en poussant le premier cri annonciateur de la vie, jusqu'aux dernières qui sillonnent le visage de celui qui donne le dernier adieu à la vie, ce n'est qu'une succession de petites et de grandes souffrances. Elle transforme l'existence en calvaire. Le grain de blé. Or, ce sacrifice, ces larmes, ces croix, je vais t'apprendre à les rendre non seulement acceptables, mais encore chers à ton cœur et au mien. Rappelle-toi cependant que si le grain de blé n'est pourri en terre, il n'y produit pas l'épi. Chacun de vous est mon grain de blé. Vous formez l'hostie, la victime, le corps mystique. C'est pourquoi chacun de vous doit mûrir après avoir pourri dans la souffrance. Ce n'est pas seulement une loi mystique, celle dont je te parle, mais c'est aussi une loi naturelle. Sans sacrifice, on ne fait rien. Considère dans le monde combien de sacrifices ont coûté les grandes découvertes, que des sueurs, que des nuits blanches, que de travail et combien de victimes humaines. Toute entreprise exige sa part de souffrance. Vous avez l'habitude de dire « on ne fait rien avec rien ». Il en est vraiment ainsi. Si donc, dans toutes les activités humaines, il existe la loi de la douleur comme moyen de réalisation de petites et de grandes choses, à plus forte raison cette loi doit-elle entrer dans les choses de Dieu. Il ne peut en être autrement, car si le Père lui-même, dans sa bonté et sa sagesse infinie, a voulu m'émettre à cette loi, moi son fils, c'est qu'il n'y avait pas d'autre loi meilleure, d'autre moyen plus efficace, d'autre voie plus droite que celle de la douleur. Tel n'avait pas été le désir du Père en créant l'homme qui était destiné à la joie, au bonheur et à la gloire du paradis. Destiné à jouir. De cette terre, vivant en communion avec Dieu, l'homme, roi de la création, était destiné à jouir d'un paradis anticipé. L'acte de rébellion dont s'essuyèrent vos premiers parents brisa les relations filiales qui existaient entre l'homme et Dieu, et la douleur en fut la conséquence logique. Mais, quoique vivant dans l'abjection et dans les pleurs, l'homme n'aurait pas pu lever les yeux vers Dieu et demander pitié. Son cri ne serait pas arrivé jusqu'au ciel si moi, dit Jésus, me revêtant de la nature humaine et me faisant l'un d'entre vous, je n'avais comme victime demandé pardon au Père pour toute l'humanité. Ce n'est qu'après mon sacrifice et seulement s'ils sont unis au mien que vos sacrifices ont une valeur de rédemption et de purification. Ici, je veux te faire remarquer combien il y a des souffrances inutiles dans le monde, souffrances qui ne seront pas rétribuées, qui n'auront pas de récompense. Ce sont les souffrances que beaucoup d'âmes subissent ou encore supportent en vivant dans les péchés mortels. Je t'explique. Si tu veux éclairer une pièce, tu tournes l'interrupteur. Eh bien, la grâce est l'interrupteur qui permet à la lumière de Dieu d'entrer en toi. Illuminé par cette lumière qui est vie divine, tout prend une importance particulière et toutes les petites choses, même une larme, peuvent être utilisées pour le bien de tout le monde. Pour celui qui vit en état de péché, les pleurs, la douleur, la souffrance, tout est nuit noire, tout est gaspillage. De plus, le désespoir, la révolte, le mécontentement entre dans son cœur parce qu'il y manque le secours de Dieu, quand ce n'est pas la foi elle-même qui vient à faire défaut. Si vous voulez avoir la force de supporter la vie telle qu'elle est, puisez là dans le cœur de Dieu qui sait transformer la douleur en joie. Ce n'est qu'ainsi que tu peux faire de la souffrance un don à tes frères, que tu peux les aider à payer, que tu peux adoucir les souffrances des autres, comme ont fait beaucoup de saints dans l'Église. Par le moyen de la grâce et de la souffrance, chaque chrétien peut se présenter au Père et lui dire « Moi, je suis ton Fils, je suis Jésus », et par son intermédiaire, le Père donne ses bienfaits à l'humanité. Tu as une monnaie. Toi, tu sens dans ton cœur un désir ardent d'aider les autres à être sauvés. Tu les voudrais bons, sains et du moins honnêtes, en bonne santé. Eh bien, tu as une monnaie avec laquelle payer tout cela, ta souffrance. Tu te plains peut-être parce que tu n'as pas de santé et que de ce fait tu ne peux remplir tes devoirs envers eux. Ne te lamente pas. Si tu offres à Dieu tes souffrances avec moi, Dieu lui-même te remplace. Et même si tu n'en constates pas tout de suite les fruits, tu verras que lui conduira tes enfants mieux que tu n'aurais pu le faire toi-même en pleine santé. Si tu te plains, si tu pleures, si tu désespères, ils te supporteront mal. L'exercice de la charité est déjà difficile avec les malades et tu ne pourras leur faire du bien. Tu seras seulement un poids pour eux. Vous avez des personnes chères, malades dans la famille. Si vous les approchez avec sérénité, avec patience, elles sentiront moins leur malheur et la croix sera moins lourde pour tout le monde. Utilise la croix comme moyen de salut. Aime la croix parce que sur elle, c'est moi, Jésus, qui te trouve. La douleur est le moyen par lequel on peut prouver l'amour. C'est le langage de l'amour. Celui qui m'aime n'a pas d'autre choix à faire que de me suivre sur la voie douloureuse en portant sa part de croix. Accepte avec joie de me suivre, dit Jésus. Sur cette route, tu trouveras aussi ma mère, la plus sainte de toutes les créatures, la plus douloureuse des mamans. Confie-toi à elle. De même qu'elle m'a consolé, moi, elle t'aidera, toi aussi, à parvenir au sommet, et puis après les souffrances, la gloire et une joie infinie qui ne finira jamais. Les purgatoires. Écoute, mon ami, dit Jésus, la leçon que je te donnerai te parlera d'un sujet que tout le monde juge de peu d'importance, mais qui en réalité en a beaucoup. Je te parlerai du purgatoire, c'est-à-dire de ce lieu où les âmes des défunts doivent se rendre pour accomplir leur purification avant de monter au ciel où nul n'entre, à moins qu'il ne soit pur. Te rappelles-tu la parabole que je t'ai racontée dans l'Évangile, celle de l'invité que l'on trouva sans la robe nuptiale? Eh bien, personne n'entre au paradis sans la blancheur de la robe qu'habituellement vous représentez par le petit vêtement blanc que le prêtre place sur le corps des nouveaux-nés le jour de son baptême. Comme les âmes parviennent bien difficilement à la mort dans leur innocence baptismale, il est nécessaire qu'elles la retrouvent dans ce lieu de purification. Un acte de contrition parfaite suffirait à redonner cette splendeur à l'âme, qui après la mort pourrait immédiatement voler vers l'étreinte avec son Dieu. Mais il est tellement difficile d'avoir une contrition si profonde que généralement tout le monde doit passer par les purgatoires. Dieu est nécessaire. Tu me demanderas, qu'est-ce que les purgatoires? Il est bien difficile de pouvoir te l'expliquer. Il faudra que tu puisses comprendre ce qu'est Dieu pour une âme, pour saisir quelle peine représente la privation de lui, même si elle n'est que temporaire. Pense que Dieu est nécessaire à l'âme, comme l'air indispensable à tes poumons. Tu connais certaines maladies qui donnent à la personne qui en est atteinte une sensation d'étouffement, l'asthme par exemple. Eh bien, cela peut te donner une idée, une pâle idée, de l'un des tourments qui, au purgatoire, constitue la plus grande anxiété. Tant que vous êtes pris dans cette enveloppe que vous appelez le corps, l'âme est comme insensible à l'appel de son Dieu. Mais quand libérée des attaches qui la retiennent sur la terre, elle voudrait prendre son envol vers Dieu, le fait d'en être privée est un tourment indescriptible. toutes les autres peines qui puniront les âmes dans leurs défauts particuliers, comparées à cette peine, seront secondaires. Le feu purificateur dans lequel les âmes sont plongées tourmentera de préférence les parties du corps qui furent causées de péché. Je t'ai parlé du corps, car bien que l'ayant laissé sur la terre, les âmes auront la sensation de le posséder encore pour qu'ils puissent participer à la peine que le Seigneur a infligée à l'âme. Acte de justice. C'est ainsi un acte de justice de la part de Dieu, car après le jugement dernier, le purgatoire n'existera plus, et de ce fait, le corps qui était avec l'âme pour commettre le mal resterait impuni. Tout de suite après la mort, l'âme vole d'elle-même vers ce lieu de purification. Elle ne pourrait supporter de se trouver devant Dieu avec la moindre tâche, et elle ne voudrait pas sortir du purgatoire avant que sa splendeur ne fût digne du lieu où, avec Dieu, règne la cour céleste, toute de sainteté et de perfection. L'unique réconfort pour les âmes qui souffrent dans la prison des purifications, c'est l'espoir qu'un jour, elles pourront enfin en sortir. Ces âmes ne peuvent rien pour elles-mêmes, alors qu'elles peuvent quelque chose pour vous qui vivez encore en exil. Elles ne gaspillent certainement pas leur temps. Elles l'emploient à aimer Dieu et à aider les hommes, spécialement ceux qui, elles ont eu des liens de parenté spirituelle et naturelle, ceux qui les ont aidés à se sauver. Elle aide surtout ceux qui, en priant pour elle, demandent d'être aidés par elle. Tu comprends tout de suite quelle importance a la prière pour ces âmes. Tandis qu'elle leur donne réconfort et secours, en attend leur libération, elle vous obtient des grâces et des faveurs particulières. Indubitablement, Dieu doit accorder ses faveurs, car hâter la rencontre de ses âmes avec lui, c'est lui procurer une grande joie. Personne ne pense à elle. Il y a des âmes qui au purgatoire souffrent depuis de très nombreuses années. Personne ne pense à elles, peut-être même parce que durant leur vie, elles n'ont jamais songé à prier pour les autres. Et c'est un acte de grande charité envers elles et envers moi que de hâter leur libération, dit Jésus. Pour mieux te faire comprendre à quel point tu devrais être intéressé à prier pour ces âmes qui souffrent des peines indescriptibles, je veux te donner un petit exemple. As-tu remarqué, dans certains endroits publics, comme les hôpitaux, des inscriptions lumineuses qui apparaissent quand un malade sonne? Eh bien, pense que chaque fois que pour ces âmes tu offres quelque chose qui peut les aider, elles payent immédiatement de retour le bien qu'elles reçoivent ainsi. C'est comme si elles allumaient l'inscription lumineuse, Dieu, l'appelant au secours de l'âme qui leur a fait du bien. Comment peux-tu aider les âmes du purgatoire? De mille manières. Tu peux offrir pour elles le mérite de tes bonnes actions, tes sacrifices, tes aumônes, tes prières. Mais la prière et les sacrifices qui les aident et les soulagent le plus sont les sacrifices de la Sainte Messe. C'est mon sacrifice offert au Père pour elle. Eh bien, songe que cet acte de charité que tu peux accomplir pendant que tu es sur la terre est aussi un devoir de justice. Peut-être qu'au purgatoire gémissent des papas et des mamans qui, durant leur vie, ont été négligés par leurs enfants. De la part des enfants, offrir pour eux la Sainte Messe est la meilleure façon de réparer. Peut-être que souffrent des personnes consacrées, des prêtres en particulier, pour avoir été trop indulgents avec leurs pénitents, ou pour avoir abrégé ou célébré avec trop de hâte les saints mystères, afin de ne pas ennuyer les fidèles. Peut-être s'agit-il de personnes qui ont péché par trop d'indulgence et de bonté naturelle en offensant la loi de Dieu. Devoir de justice. Eh bien, c'est un devoir de justice de les aider et de les libérer. Et vous, vous le pouvez et vous devez le faire. Écoute l'appel qu'elle t'adresse. Ayez pitié de nous, vous qui pouvez nous aider. Ne sois pas sourd à leur imploration. Tu ne les vois pas, je le sais, et c'est pour cela que tu les oublies. Mais si tu as la foi, tu dois croire à mes paroles, dit Jésus. Et si, dans l'Évangile, j'ai dit que vous seriez récompensés, ne fût-ce que pour un verre d'eau donné en mon nom, ne crains pas que pour cette charité en faveur de mes amis, je ne te donne pas une large récompense. Prie chaque jour, ma maman, de descendre en cette prison obscure pour libérer les âmes qui l'ont le plus aimé au cours de leur vie, et sois sûr aussi que ton invitation sera accueillie par elles avec joie et généreusement payée de retour. Les lectures. Écoute, mon ami, dit Jésus, la présente leçon veut être pour toi un guide dans le choix de ce qui t'attire le plus, pour que ton choix soit conduit par la prudence et le bon sens. Je te parlerai de lecture. On dit que celui qui lit mange. En effet, la lecture est comme un aliment de l'esprit. Si l'aliment est sain, il t'élèvera spirituellement et donnera de la joie à ton esprit. S'il est corrompu, il souillera ton âme. Il t'entraînera au péché et à la ruine, non seulement spirituelle, mais encore corporelle. C'est pourquoi sache choisir tes lectures et ne te jette pas sur ce qui te tombe entre les mains en dévorant les mots, car il pourrait être un dangereux poison qui s'insinue dans ton esprit et dans ton cœur. Par une lecture malsaine, tu peux perdre la paix et être entraîné au mal. Prends conseil dans le choix. Beaucoup avant toi et des plus forts que toi ont succombé. C'est pourquoi crains pour toi-même, pour le choix des journaux et des livres, des revues et des opuscules. Prends conseil auprès de ceux qui ont la charge d'en étudier pour toi les contenus. Je t'assure que tu vivras plus tranquille, tu auras l'esprit plus libre et tu auras moins de cauchemars pendant la nuit. Choisis des lectures qui t'élèvent, t'instruisent et te servent de guide dans le chemin de la vie. Si des raisons d'études ou des responsabilités t'obligent à la connaissance et à la lecture des nouvelles diverses et de livres de tout genre, commence par te recommander à Dieu qui veille sur tes pensées, tes sentiments et sur tes sens, afin qu'ils ne soient pas troublés. Que d'âmes se ruinent par des lectures malsaines. Que d'âmes innocentes perdues par les journaux et les revues pornographiques. Que des lectures diaboliques. La jeunesse moderne, au nom de la liberté, ne veut pas de limites en ce domaine. Te dire le mal que peut faire un journal ou une publication malpropre n'est pas facile. Les jeunes lisent et en cachette ou effrontément, ils propagent le mal. Le poison qu'ils ont ingéré, ils le répandent. Et aujourd'hui, cela devient une gloire que de savoir la dernière nouvelle ou la dernière plaisanterie la plus malpropre. Sachez choisir, mes enfants. Et vous, maman, veillez sur les lectures de vos enfants et sur les vôtres. Ne vous leurrez pas en pensant que même maintenant le système est changé et qu'il est bien de tout savoir et de tout voir. Des images obscènes réveillent les sens et portent à des pensées et à des péchés d'impureté. Et certains bouleversements et changements de position et d'idées sont dus à des mauvaises lectures. Ne vous leurrez pas. Ne dis pas que tu lis superficiellement et seulement pour passer le temps, car de même que les aliments nourrissent ton corps, de même que si tu manges par habitude et sans penser à ce que tu manges, ainsi en est-il des lectures qui sont la nourriture de l'esprit et portent leurs fruits en temps opportun. Et c'est lorsque tu te trouves en des circonstances semblables à celles que tu as lues dans les journaux ou dans les livres, qu'il te vient spontanément d'y repenser et d'agir de manière identique. Approfondis l'étude des vérités éternelles. Lis des livres qui te montrent des exemples à imiter. Lis et étudie mon message d'amour, l'Évangile, dit Jésus. Les livres pleins de sagesse et de lumière des docteurs de l'Église. Que t'importe de connaître les circulum vitae des chanteurs, des artistes ou de quelques personnalités, s'ils sont inimitables ou si en les imitant tu ruinais ta famille. Le fait de savoir t'imposer une règle, un horaire, même en ce domaine, apporte une grande aide. Savoir interrompre ta lecture parce qu'un devoir de charité ou de profession réclame ta présence est une preuve de caractère. N'exagère pas dans tes lectures, lis modérément. Réfléchis et assimile ce que tu lis pour le transformer en pratique de vie. Le livre de la nature. Et je vais te donner un conseil. Il est un livre dans lequel tout le monde peut lire, même les analphabètes. C'est le livre de la nature. Ne te lasse jamais de le lire. Bien plus, habitue-toi à le lire chaque jour, partout où tu te trouveras. Observe les fleurs, les arbres, le ciel, les étoiles, les animaux. Observe le monde de la nature qui t'entoure, illuminé par le soleil ou éclairé par la lune. Lis dans ce livre merveilleux la bonté du Père, son immensité, sa justice, sa providence. Et après y avoir réfléchi, il te viendra spontanément une pensée de reconnaissance envers lui. Tu auras davantage confiance, tu te sentiras meilleur. Les saints savent élever leur cœur à Dieu plein de reconnaissance, même en ne regardant qu'une petite fleur des champs. Lis dans les livres de la création qui est à la disposition de tout le monde, et tu découvriras l'amour de Dieu pour les hommes, qu'ils soient bons ou méchants, et toi aussi tu dilateras ton cœur dans l'amour de Dieu et de tes frères.